Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fior. Et la prise de son assurée ce soir par Élise Le, la réalisation Daniel Finot. Autour de cette table, Corinne Rondeau, Thierry Chaise et Philippe Azori vont nous parler ce soir du Lion est mort ce soir, de Nobuhiro Sowa, de Cœur pur de Roberto Paolis et enfin de Taste of Cement de Ziad Kaltoum. Boris Pino à mes côtés surveille les fils Twitter et Facebook pour bien entendre les commentaires des auditrices et auditeurs qui auraient déjà vu ces films ou auraient des questions à poser à leur sujet. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Wrong Elements de Jonathan Little qui est distribué par Blackout. Et nous ouvrons cette émission avec le nouveau film du peu prolifique réalisateur japonais Nobuhiro Sowa, qui continue à s'afficher comme le plus français des cinéastes nippons, puisque Le Lion est mort ce soir succède à Yuki et Nina, qu'il avait co-réalisé avec Hippolyte Girardot, c'était en 2009, et puis auparavant c'était Un couple parfait, sorti lui en 2006, déjà tourné en France avec des acteurs français. C'est donc une nouvelle fois le cas, avec un film dont le personnage central est incarné par Jean-Pierre Léo, dans le rôle d'un vieil acteur sur un tournage qui doit être interrompu quelques jours, ce dont il profite pour se rendre dans une grande, vaste demeure abandonnée dans le sud de la France, où il va faire la rencontre d'une bande d'enfants qui ont décidé d'y tourner un film.
Est-ce que vous êtes un vrai acteur?
Ah bon, peut-être. Non, pas les soupes. Charlie.
Non, je suis un vrai acteur.
Ah, vous avez joué dans combien de films?
Il se souvient plus.
Ouais.
Pas dans beaucoup, personnellement, mais... Vous avez eu de très beaux films, de très beaux. Je suis très content d'être acteur. Et vous, vous voulez faire quoi dans la vie?
Maman, ça est très bonne, la soupe.
Dans la vie, Acteur.
Ça, j'aime bien.
Acteur.
Et moi, j'aimerais bien écrire des scénarios.
Et vous aimeriez bien?
Et moi, j'aimerais bien être styliste.
Être?
Styliste.
Styliste? Dans la mode?
Oui.
C'est bien, oui. Mais quel âge avez-vous, mademoiselle?
7 ans.
Ah, 7 ans, c'est bien, c'est l'âge de raison. Non?
C'est pas 8 ans l'âge de raison?
Non, c'est 7 ans.
Non.
Ah.
Oh.
En vrai, c'était pas 30 ans.
Et à mon âge,
ouais, c'est ça, ouais.
À plus de 70 ans, c'est l'âge de déraison.
Voilà qui nous laisse quelque espoir. Cet extrait du Lion est mort ce soir. Corinne Rondeau, tiens, pour commencer.
Bon, écoutez, moi j'étais contente de voir ce film après le Albert Serrin, qui nous l'avait bien fait mourir, notre Jean-Pierre Léon. Donc je trouve le film
c'est
assez...
la mort de Louis XIV, oui, l'an dernier, je
oui,
pense.
Oui, la mort de Louis XIV, oui. Ben oui, c'était ça
non,
le
non,
film
Non, mais c'est pour situer.
Et donc là, oui, voilà, c'est vraiment le Jean-Pierre Léon de retour au cinéma, et le film se met en abîme puisqu'il joue un acteur, donc... On est content de voir ce jeu totalement dissonant de Jean-Pierre Léo, qui va bien d'ailleurs avec le jeu des enfants aussi. Ce qui est intéressant, je dirais, c'est cette manière dont il a de répéter quelque chose qui est une obsession, c'est-à-dire la rencontre avec la mort, qui est dès le début du film. Et le film va se mettre effectivement lui-même en abîme à travers ce qu'est le cinéma, la magie du cinéma d'une certaine manière. C'est que les acteurs sont toujours vivants, même lorsqu'ils sont morts. Donc voilà, c'est une grande joie de revoir un petit peu cette magie. Le film est assez modeste. Il a beaucoup de, je dirais, de cocasseries dans lesquelles, évidemment, s'exprime avec éloquence, malgré tout, Jean-Pierre Léo. Donc j'ai trouvé le film assez rafraîchissant. Et par ailleurs, voilà, c'est aussi une manière de dire que l'acteur, il a comme le roi deux corps, c'est-à-dire le mortel et l'immortel. Et je trouve que la manière de le mettre en retrait, finalement, dans ce château qui est le château des spectres, et dans cette mise en abîme avec ce petit groupe d'enfants, a toute une sorte de vitalité, mais c'est pas la fougue, évidemment, des 400 coups de Truffaut. Là-dessus, je suis pas du tout la cinéphile de Truffaut qui voudrait retrouver quelque chose d'une nouvelle vague, pas du tout. Autre temps, autre jeunesse, on dira. Et donc, voilà, le film est un moment assez frais, je dirais. Il finit avec une certaine grâce, on va dire, simplement avec un plan caméra fixe face à Jean-Pierre Léo, qui est assez appréciable.
Thierry Chaise, Le Lion est mort ce soir.
Là, j'ai passé aussi un bon moment. C'est vrai que la cocasserie est là. Moi, j'étais dans une salle tout à l'heure, cet après-midi, et la salle rit. On rit énormément, mais on rit évidemment avec le film. Ce que je trouve toujours très compliqué avec Jean-Pierre Léo, c'est comment filmer Léo, quel mot lui donner avec ce phrasé si particulier, et comment ne pas faire de ce film simplement un film de et sur Jean-Pierre Léo, d'un seul coup, on le fait mourir quasiment avant l'heure. Et je trouve que là, Nobuo Hiroshi est tout sauf un embaumeur, justement, qu'il prend en effet Léo, qu'il parle vraiment d'une croyance, en tout cas de l'amour du cinéma, à travers ça. Et ça, c'est très beau. Il y a une espèce de, voilà, un amour du cinéma de Suwa, l'amour du cinéma de Léo et l'amour du cinéma de ses jeunes enfants. Et que d'un seul coup, eh bien, ce qui pourrait être justement simplement un vieil acteur face à de jeunes enfants devient finalement un grand et des petits-enfants qui jouent ensemble. Et cette notion de jouer, pour moi, est essentielle à ce film et entraîne le spectateur, je trouve, dans ce jeu-là, et fait que d'un seul coup, on réécoute Jean-Pierre Léo. Alors évidemment qu'il y a des clins d'œil au cinéma, évidemment qu'il y a des clins d'œil au cinéma Truffaut, évidemment qu'il y a un clin d'œil à la maman et la putain à travers l'apparition d'Isabelle Weingarten à un moment. Il y a tout ça, mais ça n'est pas un film hommage. Jamais, à aucun moment. C'est comment tous ces fantômes du passé, qu'ils soient cinéphiles ou les fantômes du passé du personnage de Jean-Pierre Léo qui revoit quelqu'un qu'il a aimé, cohabitent pour donner quasiment une comédie, une joie de vivre, et pour parler de la mort comme d'une étape de la vie, une étape pas forcément malheureuse. Je trouve que la cocasserie qui domine, comme vous disiez, le film, est le parfait moyen de raconter cette histoire-là.
Bien, Philippe Azoury, pour compléter sur tour de table.
Thierry a raison, enfin, quand il dit qu'il n'y a pas de tentation chez Nobuo Hiroshi d'embaumer. Moi, j'ai craint un peu ça au tout début avec la première scène qui est un tournage qui est en train de s'arrêter. J'ai cru auquel se succède une rencontre avec Isabelle Weingarten, donc comme le disait Thierry, qui est une pure référence à la toute première scène de La Maman et la Putain de Jean Eustache. J'ai cru qu'on allait comme ça pendant une heure et demie vagabonder, enfin voilà, de référence en référence, de clin d'œil en clin d'œil, avec même un jeu récent sur, et Corinne le disait, enfin sur cette espèce de totem qui est désormais devenu Léo lorsqu'on le filme mourant ou attendant la mort, que filmant ces dernières images, puisqu'on pense donc, même si ça en est un peu l'antidote au film d'Albert Serra, qui est seigneurial, celui-là n'est pas du tout. Et peu à peu, à coups d'emboîtement qui sont compliqués, à tous les sens du terme, et qui des fois marchent, des fois ne marchent pas, retardent un peu quand même l'attention, se met en place ça, quoi, cette espèce d'état un peu fuligineux, étrange, où on ne sait plus tout si on est... Enfin si, on commence à comprendre qu'on est dans le rêve, qu'on est plus simplement dans la citation, on est dans une évocation lente, un long rêve de Jean-Pierre Léo. Plutôt pas mal, lui, magnifique, enfin vraiment vieux Sioux comme ça, filmé, vraiment bien, non, mais très beau, il y a un truc sur la peau qui est vraiment magnifique, enfin sur la peau abîmée du coup de l'homme de 72 ans qu'il est, et effectivement, Corinne le souligne, enfin je veux dire, à partir du moment où arrivent les enfants, il se met à jouer, c'est là où il se met réellement à retrouver le plaisir de jeu. C'est vrai qu'il joue comme un gosse, ou alors il retrouve, enfin voilà, l'enfance de l'art, quoi. Et ça devient assez anarchique. C'est pas toujours fascinant. Enfin, il y a des hauts et des bas, il y a des baisses de régime. C'est pas le plus beau film de Suwa, je dirais vraiment pas non. Ça. C'est moins qu'on puisse dire. Mais il se constitue un moment émouvant, quoi.
Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que j'étais surpris d'entendre cet extrait de cette scène, qui est vraiment la scène qui m'a le plus ému et réjoui du film, parce que on est vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a, de la part de Jean-Pierre Léaud, beaucoup d'improvisation, dans cette séquence.
C'est un dispositif qui voilà.
Et allez-y. Et il y va. Et les enfants aussi, mais il y va comme un enfant. Et c'était, je trouvais ça très touchant, très beau et très, très juste en même temps. Et du coup, je me demandais, en effet, par rapport à cette, ce phrasé étrange quand même de Jean-Pierre Léaud, si Nobuo Hiroshima parlait, comprenait le français.
Il comprend le français.
Oui.
Enfin, même, je pense qu'il il commence à le parler un peu, mais il ne le dit pas.
Parce que je me demandais justement...
Ça fait très longtemps, hein, depuis déjà l'époque d'Un couple parfait. Moi, j'avais fini par comprendre en passant sur le tournage qu'il faisait l'homme qui ne parlait pas le français.
D'accord, il cache son jeu.
Il avait l'épée royale, mais
d'accord, il comprend ce qu'il se dit. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question qu'on peut se poser sur les cinéastes travaillant avec des acteurs qui ne travaillent pas, eux, dans la langue qui est la sienne. Tout le monde aura compris ma phrase beaucoup trop compliquée. mais bon, il y a cette étrangeté-là. On n'a pas cité Pauline Étienne, que j'avoue est un bien beau fantôme. Je trouve qu'elle a une présence, on a pu la voir ça et là, dans différents films ou séries, dans le Bureau des légendes notamment. Et je trouve qu'elle a une présence très juste, parce qu'il faut quand même y aller de faire des scènes en tête-à-tête avec Jean-Pierre Léaud. Et je trouve qu'elle a une précision, à la fois une fraîcheur, une douceur, ça a l'air évident pour elle d'être là.
J'ai pu me poser, Arnaud, la question justement de l'oreille de soi, avec le jeu de Pauline Étienne, qui est très bien, mais qui a un phrasé de fille, elle a quoi, Pauline Étienne va avoir 28, 29, 30 ans, enfin voilà, de fille de son âge aujourd'hui, avec un phrasé très très contemporain.
Ouais.
Or, sans spoiler, il se pourrait que ce soit une apparition d'un amour de jeunesse de Jean-Pierre Léaud.
Ouais, une jeune fille des années 50 ou 60, on va dire.
Et je trouve que là du coup, pour le coup, il y a quelque chose que Soua sans doute ne sait pas, quoi, de ce qui s'est passé dans le phrasé, pas simplement au cinéma, mais sans doute dans la vie, dans le réel, dans la société, entre les années 60 et aujourd'hui.
Enfin, mais ça fait partie
des années 70, parce qu'il est censé l'avoir rencontré en 72.
Ouais, mais ça fait partie de la cocasserie aussi, ou convention du cinéma. Pourquoi le fantôme, si c'en est un,
c'est pas dévastateur.
Ça
casse pas le film en deux, mais c'est genre tout. Tiens, là, peut-être qu'à l'oreille, il peut pas savoir ça, quoi.
Corinne Rondeau.
Non, je trouve que l'écart entre les deux marque suffisamment le deux temps. Et c'est de deux temps dont ils ont besoin jusqu'au moment où ils dansent entre eux, qui est une scène quand même assez belle, maladroite, mais pleine de vie, parce que ce qu'elle incarne, Pauline Étienne, c'est vraiment la fraîcheur d'un temps qui ne se dépasse pas. Et donc c'est revenir à l'endroit où tout s'est cristallisé, et je trouve que ces moments-là sont assez forts, et en même temps ils manifestent une sorte de passage au sommeil, mais aussi à la mélancolie de Jean-Pierre Léaud à ces endroits-là, dans cette chambre où il la retrouve. C'est vrai, cette pièce semble absolument habitée alors qu'elle ne l'est pas. Donc je trouve que le film a cette manière d'être sans être sur le surnaturel, bien qu'il y ait du surnaturel autour du film de ses enfants, il y a cette manière de passer d'un temps à un autre temps sans le marquer, sans faire d'effet. Et c'est la grande force de ce film, je disais modeste tout à l'heure, d'être sans effet. Et l'effet, en fait, ne vient qu'à la fin. Et alors, je ne vais pas non plus spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il vient à la fin, puisque c'est une manière de dire, le cinéma, c'est toujours une puissance qui est donnée à ceux qui veulent en faire ou ceux qui veulent le voir. Et donc, ces enfants ne sont pas là pour dire l'avenir, c'est nous. On fera du cinéma demain, mais c'est de dire, quand on va au cinéma, on veut voir des images qu'on n'a pas vues, même si elles sont filmées dans un réalisme absolument naïf, comme c'est le cas ici. Donc je trouve que ce film, il peut... Alors, je disais fraîcheur, parce qu'on comme si on le buvait comme un soda frais d'été en plein mois de janvier aujourd'hui. Et je trouve qu'il est parfait. Je veux dire, il pleut dehors et puis on rentre dans cette salle. D'ailleurs, il y a quelque chose de très irréel au début du film. C'est ce ciel bleu sur cette terrasse. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce fake? Cette couleur est trop belle pour être réelle. Effectivement, quand la caméra se retire, on est sur une scène qui est organisée avec sa lumière pour faire un plan.
On est où d'ailleurs? C'est Arles? C'est quoi?
On est en région PACA, à l'évidence. J'ai attendu le générique fin. Il y a beaucoup, beaucoup de communes différentes qui sont citées, parce qu'il y a un jeu de pistes, hein, pour Nobuo Hiroshima. Mais comme Laurent Cantet, d'ailleurs, il a quand même tourné une bonne part, et on le voit à un moment donné à La Ciotat, ce qui n'est pas tout à fait non sont plus neutres quand on s'intéresse à, au cinéma et à sa genèse. Donc il y a ça, mais cette terrasse là, je me suis dit, mais est-ce que c'est ce que sont mes Cévennes chéries? Non, parce que c'est pas tout à fait cette végétation là. Moi je penserais plutôt à un arrière-pays aix-soie ou quelque chose comme ça.
Mais c'est intéressant, enfin, cette
terrasse
justement, parce que
c'est le mépris aussi.
On voit bien qu'il est seul. Non, et surtout, on le filme vraiment seul. Le réalisateur vient dans le champ. Il est vraiment...
très bien, Louis Delanque. Ouais,
très bien.
Mais très, très bien.
On sent qu'il y a une il y a justement, il est quasiment, ce que pourrait être beaucoup de metteurs en scène, le respect total pour Léo, et Léo est vraiment filmé tout seul. Et on a du mal à venir lui parler. Et c'est ça à mettre en rapport avec la scène, moi, que j'adore aussi, où il regarde le film. Mm. Il découvre au milieu des enfants. Et après, il ne sera justement qu'entouré. Et je trouve que ce changement-là est très beau aussi à la réalisation.
Peut-être rajouter juste
Philippe Azoré.
Un dernier détail, parce que moi je m'en suis aperçu à la fin, pareil en regardant le générique, mais j'ai pas tenu jusqu'au bout. Que les dialogues entre Jean-Pierre Léo et Pauline Étienne venaient d'une pièce qui s'appelle Fugue en mineur, qui est une pièce de Pierre Léo, qui était le père de Jean-Pierre Léo.
Ouais, ouais.
Et je trouve l'idée, une fois qu'on le sait, bouleversante, enfin, de demander, ou genre, je sais pas qui c'est venu, enfin, en tout cas, de demander à Jean-Pierre Léo, à 72 ans, de jouer enfin un dialogue écrit par son père. Il y a vraiment quelque chose d'émouvant, enfin, purement émouvant.
Boris Pinault, un commentaire?
Oui, Arnaud, le film ne prend jamais, écrit Christophe Despot sur Facebook, et capitalise au maximum sur la figure de Léo, génial comédien mis à bas par les avanies de la vie, mais pourtant beau quand même. Le lion est mort ce soir fait songer à un remix très lâche de L'argent de poche et de La nuit américaine, additionné d'un versant fantastique particulièrement mal embouché. Sans être honteux, le film est parfaitement dispensable.
Bon, c'est Christophe Despot qui est mal embouché, mais ça on le sait, on l'aime bien parce qu'il nous écrit souvent, Christophe Despot. J'aimerais, on attend le commentaire positif de Christophe Despot sur un film. Je lui lance ce défi très amicalement, par-delà les ondes. Bon, on n'a pas du tout vu le même film, a priori. Mais c'est vrai que vous commenciez par là, Corinne Rondeau, tout à l'heure, en parlant d'une modestie. Mais on voit bien qu'elle est très riche. Elle est quand même nourrie de beaucoup d'éléments qu'on a essayé de donner ensemble, Corinne.
Oui, oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, Philippe le disait sur un emboîtement même un peu compliqué ou pas, mais je trouve que ça marche bien parce que c'est vrai que chaque fois qu'il y a le film progresse, on se dit il va trouver une limite. Ce film va trouver une limite, et en fait, il arrive à dépasser chaque fois les petites limites qui se donnent. Et à la fin, on se dit, mais c'est quand même une réussite malgré peu de choses. Et
une sorte de réussite bancale, c'est très étrange.
Un peu comme Jean-Pierre Léo, finalement, parce qu'il y a quelque chose de bancal, même dans son jeu, où il y est pas, il s'amuse, il fait un effort. Je veux dire, il y a cette scène avec la porte, qui est géniale.
Quand il est dirigé par les enfants.
Quand les enfants, il tape à la porte, les enfants tapent à la porte, il ouvre, il dit un mot, puis il la referme, il répond. Et donc là, il y a vraiment un amusement, et on voit que cet amusement n'est pas fin. Et c'est vrai que dès que Léo n'est pas dans le plan, alors que parfois dans le plan,
c'est rare.
Non, mais bien sûr que c'est rare. Mais on se dit, mais c'est incroyable à quel point il tient le plan. Il tient le plan. Et donc tout le film est, je dirais, le reflet de Léo. Mais c'est pas lui rendre, comme vous l'avez dit, un hommage. Mais c'est au contraire dire qu'est-ce qu'on fait avec
aujourd'hui,
Léo,
en 2017.
C'est la matière sculptée, Léo, aujourd'hui. Enfin, c'est le portrait. Enfin, c'est un portrait.
Je trouve que Léo devient un acteur du présent. Et c'est pas du tout comme l'a fait Serra, qui pour moi était une sorte de récupération de la figure pour le faire mourir au cinéma dans un temps où peut-être le cinéma serait mort ou des choses absolument banales et inintéressantes au possible. Mais pour le coup, là, je trouve que cette fraîcheur, et c'était la fraîcheur qu'il fallait redonner à Jean-Pierre Léo. Donc moi, je trouve que...
J'aime beaucoup le Serra, mais les deux films deviennent complémentaires. Effectivement, tellement ils tiennent les deux bouts de la non-mort de cet acteur génial qui ne cesse de dire que le meilleur âge de l'homme est entre 70 et 80 ans.
Ce qui nous réjouit. Ouais, on est super contents. Non, c'est vrai,
ça y est, je...
Nous, autour de cette table, c'est notre mantra maintenant.
Non,
nous sommes d'accord. Bon, ça nous laisse de beaux horizons. Le lion est mort ce soir.
On risque de s'embêter jusqu'à 70 quand même.
Bon. On va se disputer bien souvent, j'espère.
D'abord, de moins en moins.
Il reste pas tant de temps que ça. Et
la
ensuite, je suis pas sûr qu'on s'ennuie tant que ça. Le lion est mort ce soir, Nobuhiro Suwa, sorti sur les écrans depuis mercredi. À suivre dans la dispute, Cœur pur et Taste of Cement.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir au cinéma avec Cœur pur de Roberto De Paolis, qui filme ici donc les marges, à tous les sens du terme, de la capitale italienne. On a rarement vu ça comme ça. En tout cas, un mélodrame très contemporain, un récit d'amour, deux jeunes gens dans une Italie qui évidemment doit faire avec le poids de l'Église, envie d'émancipation et puis la présence de corps étrangers autour de ces cœurs purs.
Ma avete sta a lavorare, vero? Dove, che fai?
No, facciamo guardia un parcheggio.
Oh, rientra dentro! Lascia perdere sta cazzo te, rientra dentro!
Scusami, posso entrare con la macchina di là per il campo rom?
Campo rom, sì.
Sì?
State qua.
Ah, va bene, grazie.
Stefano.
Agnese, ho accompagnato mia madre a fare volontariato.
Lasciami il telefono, no?
Il numero, non il telefono.
Grazie Gesù per averci adottate nella tua vita.
L'unico amore che vale la pena di essere vissuto è quello in cui si dà tutto all'altro. Questo si chiama matrimonio.
Perché non si poteva un baciare?
Io voglio rimanere pura.
Tu sei pura.
Vi ho portato dei regali.
Poi perché vado a questi?
Hanno bisogno.
Ah, capito, sono poveri e ci hanno bisogno.
Che succede?
Hanno sfrattato mia madre.
È che non so più niente di te, non so dove vai, con chi stai, non so.
Mi vuoi far morire di paura!
In questa qua dentro.
Voglio stare con te.
Hai fatto una cosa gravissima, Agnese, gravissima.
Eh bien, encore une bonne annonce, comme je les aime, tout en finesse, hein, on l'a entendu, qui ont souvent peu à voir avec la réalité des films. Thierry Chaise, Cœur pur.
Mais c'est le cas ici, on peut dire que c'est en effet, on y va dans le...
boum, boum, badaboum.
Exactement, alors c'est un, oui, c'est un film... qui, moi, m'a beaucoup plu, a plu à mon cœur d'artichaut pour le côté histoire d'amour à la Roméo et Juliette, dont on... Alors, il y a plusieurs parties, mais cette partie-là, donc d'un côté, un petit voyou qui tente de se remettre dans le droit chemin. Et d'ailleurs, qui s'ouvre sur une première scène où ce petit voyou est passé de l'autre côté, finalement, puisqu'il est lui-même devenu vigile et il va poursuivre une jeune fille qui a volé. Et le film démarre donc tambour battant. Les cœurs battent pour le coup à travers cette course. Et cette jeune fille, eh bien, est issue d'une famille très religieuse et sa mère lui a fait promettre que elle restera absolument vierge jusqu'au mariage. Et donc c'est l'affrontement de deux contraires. On peut dire que cette histoire-là, on l'a déjà vue beaucoup. Mais la manière de le traiter de Paolis, c'est un premier long métrage, est intéressante à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme parce que il a donc il s'est plongé dans ces milieux-là et a demandé pour une large part à ces deux comédiens, que je trouve d'un charisme remarquable, d'improviser. Et ensuite, eh bien, c'est évidemment de raconter tous ces gens, toute la périphérie. D'un côté, ce garçon qui, pour gagner sa vie, va se trouver vigile d'une sorte de parking à côté d'un camp rom, et donc avec des tensions permanentes. Et puis cette jeune fille qui va essayer de s'échapper de parents qui sont forcément abusifs, alors que le garçon, lui, a des parents totalement déficients, qui sont au bord d'être sortis de chez eux, avec, puisqu'ils sont sortis de chez eux, évidemment la haine de l'autre et de l'étranger. Et je trouve que tout ce qui pourrait être justement des concepts et qui évolue sur un itinéraire tracé arrive à trouver de la subtilité, une fois encore, beaucoup par la force de l'interprétation. Je trouve que ces deux visages, ces deux corps en mouvement m'ont séduit. Et ensuite, à travers les moyens de montrer justement les ambivalences sur des terrains a priori tracés. Donc c'est un film qui m'a charmé.
Bien. Philippe Azoré.
Y a une très grande idée, il y a une très belle idée dans ce film-là, qui est celle de cet espace, le parking, dans lequel Stefano, je cherche son prénom, que Stefano travaille comme gardien, et il suffit d'un grillage pour couper ce parking en deux, mettre un camp rom juste en face, et faire rentrer à partir de là tous les problèmes actuels de l'Italie. Ça, je trouve que c'est une sublime idée de cinéaste pour un premier film, je trouve ça très très bien. Après, je suis un peu... Je sais pas. Le film me met dans des sans arrêt sur une sorte de réserve. Je suis à la fois séduit. Ils sont très beaux, hein, faut avouer que elle comme lui, enfin, oui. C'est les deux bombasses totales. Le film le sait. Il sait les filmer, au moins ouais. C'est déjà ça. Ouais. Ça, y a zéro problème là-dessus. Je suis pas certain qu'à force de... comme Stéphane Roberto de Paoli compte absolument sur des flux et de s'en sortir comme ça toujours avec des mouvements, des gens qui essayent de s'extraire du mouvement dans lequel ils sont pour aller vers le mouvement contraire et créer comme ça des situations, on se demande si c'est pas aussi des coups scénaristiques, je suis pas très sûr de ce qu'il finit par nous dire. Mais peut-être parce que je suis j'ai une certaine aversion pour la pureté. C'est un problème.
C'est bien.
Dès que j'entends le mot pur, je me méfie. Ouais.
À raison, souvent, faut bien le dire.
Souvent à raison. Et je dois avouer que je sors du film sans trop savoir ce que le film a essayé de me dire de ce côté-là. Ce qui est pas forcément un problème, mais bon, quand même, quoi. Je suis même pas sûr que Roberto de Paolis le sait. Je suis très 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 curieux de vous entendre les uns les autres. Parce que j'ai entendu à la fois des horreurs à Cannes au moment de la quinzaine. Et de l'autre côté, des gens complètement enthousiastes. Je crois que vous, Arnaud, vous l'aimez beaucoup. J'ai lu un très bon papier dans les cahiers du cinéma. Enfin, on sent qu'il y a un engouement indé autour du film qui est réel. Moi, il me coupe un peu en deux.
Corinne Rondeau.
Moi, je partage plutôt l'avis de Philippe Azoury parce que je suis sortie. D'abord, je me suis beaucoup ennuyée. Sur une heure à peu près, parce que le film fait presque 1h54, je crois. Et donc, la première heure, je me suis dit, mon Dieu, ce film fait déjà 3 heures, c'est pas possible. Et effectivement, je suis arrivée...
Il est compact, en tout cas.
Ouais. Mais il se répète beaucoup. C'est un film qui se répète beaucoup. Et moi, j'étais très, très embêtée parce que je suis arrivée au même constat. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ce film a raconté. Alors, évidemment, le film est sans lyrisme ni sans pathos. On peut le lui reconnaître. C'est une qualité, notamment pour un premier film, de ne pas chercher à faire pleurer tout le monde dans les chaumières. Bon, ouais. Alors, ça, c'est intéressant. Après, le leitmotiv, même si c'est sorti d'un fait divers, on a envie de dire, bon, écoutez, que l'amour déroute les croyances ou le déterminisme, bon, d'abord, c'est pas la première fois. Et évidemment, on attend d'autres choses. Et c'est vrai, Philippe, ce côté du grillage, là, qui sépare un monde d'un autre monde, ne fait rien. Il est très bien sur des moments d'action et de rythme du film.
Il est trouvé comme idée graphique, presque.
Ouais, mais il va pas au-delà de cette chose-là. Et effectivement, quand vous le dites aussi, Thierry, que ça renvoie à ce qu'ils sont, la haine de l'autre, par rapport à des situations familiales, m'apparaissent assez grossières. C'est-à-dire que les fils sont très, très gros, je trouve. Après, je crois qu'il avait ça comme, je dirais, plan. Et à côté de ça, il a mis ses acteurs qui sont effectivement assez magnifiques. Le Stefano, chaque fois que vous l'avez dans l'écran avec son sourire, vous dites « Mamma mia !» et elle, avec cette espèce de naïveté d'y être ou de ne pas y être, ça marche, quoi. Ça marche vraiment très très fort. Même la scène où quelque chose va se passer de plus près entre eux est assez... magnifiquement tournée, je trouve. Elle est très juste.
Oui, mais même d'autres avant. Enfin, je pense quand ils vont se baigner, c'est très beau.
Ça, c'est magnifique, je trouve. Il y a des moments comme ça qui sont très réussis.
Quand leur visage se frôle presque entre les deux grillages, il y a quelque chose aussi.
Mais par contre, les scènes, par exemple, de la catéchèse, ces moments d'étymologie, brouillent en fait la dimension, je dirais, scénaristique des deux personnages. Puisqu'en fait, ce qui va se passer à la fin peut être aussi interprété à l'égard d'un moment de la catéchèse. Et là, quand moi j'ai imbriqué ce temps d'explication d'une certaine scène biblique qu'on leur rapporte, puisque le cœur pur vient en fait d'une dénomination catholique, hein, c'est ceux qui veulent rester vierges jusqu'au mariage, quand on leur explique finalement tout ce qu'est aussi le fait de croire et comment croire, il y a eu un moment donné où ce qu'elle fait à la fin du film, là aussi je ne veux pas spoiler, donc je ne peux pas tout dire, mais ce qu'elle fait à la fin du film pourrait être expliqué par ce qu'on lui dit. Et là, j'ai trouvé ça assez désastreux parce que justement, le film pouvait ne pas avoir d'explication, puisque l'amour, normalement, n'en a pas, et que ce temps extrêmement lourd de la catéchèse avec ce prêtre sympa...
Oui,
il m'a un peu embrouillé la tête, on va dire. autant je trouve les moments d'embrouille avec les parents de Stéphano juste, autant ce moment-là, ces moments-là de catéchèse, bon, je dis, mais pourquoi sont-ils là? À quoi servent-ils? Parce qu'ils sont très longs, parce qu'il y a des mises en scène de théâtre, il y a ensuite l'explication à la catéchèse, il y a la chanson comme on l'a vu, il y a la prière, il y a le machin. Et on se dit, ok, le Roberto De Paolis ne connaissait pas la religion. Bon, ben alors, il l'a apprise en faisant le film. On avait envie de lui dire, écoute, enlève 10 minutes à ton film, et ton film peut-être il prendra une tension justement sur la notion de la... Qu'est-ce qui fait que deux êtres qui n'ont rien à voir entre eux finissent par se réunir? Parce que le film tient là-dessus, grosso modo. Et c'est là où, effectivement, il y a un regret cinématographique avec, justement, cette partie, ce tiers-état dans le film, puisqu'en fait, ils sont aussi du tiers-état. Parce que la famille catholique s'occupe de ces gitans. Ouais. Et en même temps, lui, il est contre eux. Et en même temps, il n'est pas contre eux, finalement.
Ouais, ouais.
Et donc, il y a quelque chose...
Il est l'envers de la même pièce.
Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui se joue et qui... Voilà, qui est... Voilà, que j'arrive pas à mettre en ordre, où j'arrive pas à tirer le trait pour en faire, je ne sais pas moi, un engouement, voyez-vous, une déception très grande.
Ah oui. Alors moi, j'avoue que j'ai été séduit, pour reprendre le mot de Thierry Chaise, mais d'abord parce que premier film, et j'aime. Avec le problème des premiers films, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a voulu faire toute sa filmographie en une seule fois, en se disant « je ne tournerai peut-être plus jamais, donc je vais tout mettre, je vais mettre tous les sujets, je vais mettre l'amour, je vais mettre l'Italie, je vais mettre les migrants, je vais mettre la religion, etc. etc., etc. Je vais mettre ça dans un espace assez réduit, je vais mettre un grillage au milieu, vous l'avez très bien dit les uns et les autres. Mais bon, moi je suis pour l'ambition, quand elle, bon voilà. Et puis il y a une grâce à laquelle j'ai été extrêmement sensible, qui passe bien sûr... certes par les interprètes, alors on va dire leur vrai nom, parce qu'en plus il s'appelle Simone Liberati, le jeune homme, et Selene Caramazza, la jeune fille qui joue Agnese. Donc il y a une grâce à les voir, mais une grâce à les filmer. Et puis bon, la question de la grâce et de la religion, évidemment, ont à voir. Moi, la catéchèse, alors j'avoue que c'est vrai quand vous le dites, il y a toutes ces séquences-là, mais j'ai peut-être une certaine imperméabilité, et ça ne m'a pas plus dérangé que ça, ça m'a un peu glissé dessus d'une certaine façon. Mais par contre, j'ai bien noté que cette fin était sans doute, qu'on ne va pas divulgâcher ici, trop explicative par rapport à effectivement à ce qu'on a pu mettre dans le cerveau de cette jeune fille, ce qu'elle a pu entendre, ce qu'ils peuvent vivre entre eux. Moi, c'est la grâce que je retiens de ce film-là, et qui est plus qu'une promesse. C'est pas « Ah, j'ai envie de voir ce qu'il va faire par la suite ». Je trouve qu'il y a là déjà beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on voit pas beaucoup dans le cinéma courant, et voilà, c'est peut-être le jour où il fallait que je le voie.
Non, effectivement, c'est entre la grâce et l'intention. Mais sur l'ambiguïté, ça m'a beaucoup rappelé, et pour quelqu'un qui est pas nul, mais ça... Type d'incertitude dans laquelle me laissent aussi les films de Nava de Lapide.
Ah oui.
C'est ça, vous savez, sur le discours, on ne sait pas trop où ça penche. Puis chacun vient donner sa version. Enfin,
je suis pas sûr qu'il ait une conscience politique très formée. Je pense qu'il a une conscience. Des enjeux,
des enjeux,
des questions, mais pas forcément de
non,
leur...
Non, on voit bien que c'est pas traversé par ça. D'ailleurs, ça donne des nouvelles de l'Italie qui sont pas bonnes, enfin, je veux dire.
Mais ça fait longtemps
qu'on le sait, mais...
Oui, mais là, je trouve que c'est aussi assez... Enfin, moi, j'ai
mais
pas...
même de la construction, enfin, de la façon dont la société italienne se construit continuellement face à des ennemis, enfin, ça ne sont que des systèmes d'opposition. Mmh. Et les mouvements se feront, finalement, iront dans des mouvements contraires à travers des flux et des mouvements d'opposition. Mais ça n'est construit que sur des oppositions qui sont quasi binaires. Moi, c'est peut-être ce qui me glace un peu au fur et à mesure du film, ou me fatigue. C'est vrai que, enfin, je suis comme Corinne. Les 1h55, je les ai sentis passer.
Ouais, j'entends.
Je me suis pas ennuyé. Mais on sent que c'est. Il y a le côté compact.
Mais on n'a pas si souvent pas, que ça type de nouvelles de ce pays-là.
Après, il y a de la grâce.
En matière cinématographique, on a les documentaires de. Merci de m'aider. du génial Gianfranco Rosi, mais qui filme d'ailleurs pas toujours que l'Italie, mais aussi pour partie. Mais le cinéma de fiction italien, enfin, en tout cas celui qu'on reçoit ici, je doute qu'il y ait d'autres. S'il y en avait d'autres de ce genre-là, on les aurait en France, parce que nous sommes un pays béni États-Unis, qui bénéficient du meilleur de tous les pays. C'est
quand
même
un... enfin, l'Italie est quand même un pays voisin qui nous envoie beaucoup, beaucoup, enfin,
beaucoup de très mauvaises choses.
Mais de très mauvaises choses. Oui,
donc, je trouve qu'il a vraiment une place assez à part.
Moi, je suis d'accord. Et sans doute que dans ce trop-plein, il y a peut-être ce non-sens politique dont vous parliez, qui est de dire, puisque j'ai pas aidé forcément moi-même, je vais en donner beaucoup. Et pour que vous alliez à la pêche, moi c'est vrai que je me suis
pas engagé là, Roberto.
Je me suis pas ennuyé sur les 1h55. Et quand Corinne raconte, d'un seul coup, je me dis ah oui, là j'aurais pu m'ennuyer. mais je ne l'ai pas vécu comme ça parce que j'étais pris par les situations et je me demandais sans doute où est-ce qu'il voulait aller. Et je pense que le fait qu'on ne sache pas vraiment, moi, m'a permis de ne pas m'en éviter, parce que je me posais ces questions-là en même temps, et puis, sans perdre le fil, sans perdre les choses, et avec des scènes très fortes, et vraiment, en effet, les scènes de Stefano et ses parents, moi, à chaque fois, je trouve que on est dans quelque chose d'à la fois tragique et comique, mêlé, et qui est très très fort.
Même ce qui est assez fort, c'est ce qui fait quand même de la banlieue de Rome, parce qu'on reconnaît, enfin, on ne sait pas du tout, on est à
Naples,
on est où, on ne reconnaît pas, enfin voilà, et on n'est jamais dans, il n'y a pas une seconde où il est dans la carte postale, ou dans l'italianité, non.
Mais ça, c'est bien aussi. Bon, il est né en 80, Roberto De Paolis.
80, ça lui fait...
Boris Pino, vous comptez vite.
37.
Je pose deux jours.
37, c'est assez facile jusque-là. C'est bien ça, je ne me trompe pas.
Le type je ne sais pas compter.
D'accord.
Non, mais 37. C'est le meilleur film entre 70 et 80.
De toute façon.
À l'âge de la déraison.
De toute façon, il faudra attendre cela. Pas de commentaires par ailleurs, Boris Pino. Vous avez cherché, en tout cas, l'âge de Roberto De Paolis et je vous en remercie. Cœur pur et sur les écrans en français. C'est peu, alors cherchez-le. En tout cas, peut-être qu'on vous a donné envie, je l'espère. Ce film est sorti depuis mercredi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième film au sommaire de cette dispute cinéma, c'est Taste of Cement de Ziad Kaltoum, qui s'intéresse à des ouvriers syriens qui construisent un gratte-ciel de Beyrouth, qui doivent respecter un couvre-feu à 19h. Ça, c'est vraiment pour la dimension, on va dire, factuelle du film. Mais on va le voir et on va en parler ensemble. C'est autre chose encore. Oui, si vous avez touché à votre poste pensant qu'il était déréglé, Taste of Cement, beaucoup de sons, quelques paroles, on va en parler, et ça commence par un plan aérien, de carrière, et puis la caméra s'élève, passe au-dessus d'une colline, et on voit un paysage qui vous est bien familier, Philippe Azori, il faut bien que je commence avec vous pour parler de Beyrouth.
Oui, je le voyais.
Vous voyez venir.
Je l'aurais parié.
Azori, ça vient d'où ça?
Ouais.
Oui, je viens de Beyrouth. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait de voir un film comme ça?
Ah, c'est très intriguant. Je l'ai vu deux fois. Je l'avais découvert à Nyon,
où il a vu le Grand Prix, d'ailleurs, je crois, au Festival Vision du Réel, qui est un peu le Cannes du documentaire, on peut le dire. Enfin, vraiment, ou le Venise du documentaire, en tout cas, un très très grand festival de documentaire, où il m'avait fortement, fortement impressionné. Avec le temps, j'avais un peu de doute.
je sais pas. J'avais en mémoire des images que je trouvais pas toujours très très assumées aux questions du goût. Et j'ai eu besoin d'y retourner, je suis retourné hier, à l'unique séance parisienne qui est au Saint-Michel, enfin, celui qui est tout en bas de Saint-Michel. À l'espace Saint-Michel, voilà, à 18h30. C'est une séance qui a été interrompue d'ailleurs à son tout début, parce qu'apparemment des gens ont eu peur de quelqu'un dans la salle. Moi je suis arrivé tard donc j'ai pas vu la personne, et des spectateurs ont commencé à partir. C'est vrai que j'ai réalisé quand même qu'être libanais c'était toujours une source d'emmerde, et aller voir un film libanais pour un public français c'est pas fastoche. Voilà, bon. Passons sur cet incident regrettable. Non, ce que ça fait, cette première image du film de Ziad Kaltoum, c'est intéressant, parce qu'effectivement, même moi, je ne reconnaissais pas Beyrouth, parce qu'on voit pas Beyrouth comme ça. Il l'a tourné à partir de drones, c'est-à-dire avec un point de vue du plus haut, de la plus haute tour que Beyrouth peut construire. Il filme un peu la ville comme il pourrait filmer une ville d'Arabie Saoudite ou Dubaï, enfin voilà, vraiment. Beyrouth n'est pas son sujet. C'est pas du tout un film sur ça. D'une certaine manière, la guerre en Syrie, puisque Ziad Kaltoum est syrien, c'est très très important, donc il est syrien, il est réfugié à Beyrouth depuis 3 ans maintenant, je crois. La guerre en Syrie, qui est la pleine part du film, n'est pas non plus le sujet de Taste of Cement. Taste of Cement, c'est raconté à partir d'un ouvrier en bâtiment qui est exilé de Syrie, qui fait partie des 1,5 million, on dit 2 peut-être, réfugiés syriens qui sont à Beyrouth, raconte à partir de cet ouvrier qui est dans la construction alors que son pays est en destruction, ce que c'est intimement que l'exil. C'est ça quand même qui m'avait à l'époque beaucoup impressionné, qui m'a à nouveau impressionné hier soir, c'est ce sentiment complètement fou, sensationnel, enfin vraiment au terme de sensation, d'avoir la sensation de l'exil, c'est-à-dire une perte de repères, de haut, de bas, quelque chose qui est purement sensoriel, comme on a pu l'entendre, qui passe beaucoup par le son. Après, j'avais effectivement en mémoire des plans que je trouvais peut-être un peu trop appuyés, une forme de, je sais pas, quelque chose d'un peu trop sûr dans ses effets, un peu trop amoureux. Pas sûr, mais parce qu'il n'y a pas de sûreté dans ce film-là. Mais peut-être un peu trop amoureux de ses effets. J'ai peut-être eu... Et une fois de plus, ça m'a aussi un peu tenu à distance. Mais je crois que c'est quand même un film important. Je continue à réfléchir beaucoup dessus. Il appartient à cette lignée documentaire. On avait vu Léviathan il y a quelques années, un documentaire sur un chalutier. C'est Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel. J'ai une tâche sur un papier. contrairement à Léviathan, qui était quasiment un film sans humain, et dont c'était un peu le problème, celui-là arrive à intégrer de l'humain, mais quand il est un peu trop sûr de ses effets, notamment les effets aquatiques ou subaquatiques, il perd un peu l'humain de son sens de la mesure, et ça, c'est un peu dommageable, mais ça reste un film très fort à mes yeux.
Alors qui est construit avec des séquences, qui suit d'ailleurs aussi des rythmes. Hein. C'est un film.
C'est très très
il y a la journée, il y a la nuit, il y a d'autant que ces ouvriers sortent. On les voit d'abord travailler, puis on les voit
rentrer sous terre,
un escalier au milieu de cette construction qui est donc leur dortoir, et puis donc le soir.
Il y a un couvre-feu, il faut le dire, il y a un couvre-feu
pour les Syriens,
imposé aux travailleurs syriens à partir de 19h tous les soirs au Liban, ce que moi je ne savais pas.
J'ai appris évidemment en voyant ce film. Et puis donc le soir, c'est regarder les écrans, voir les images de la guerre dans le pays, pour voir si on reconnaît quelqu'un sur des images de reporters, zoomer sur un écran pour voir si c'est quelqu'un qu'on connaît ou si c'est notre maison. Et puis le matin, on ressort et puis on remonte, on a les grues, on a ce travail extrêmement physique, et puis le soir on redescend. Enfin voilà, on est dans une temporalité extrêmement simple, et en même temps avec une voix off qui va venir assez rarement dans le film, cette voix intérieure de ce récit à la première personne d'un des ouvriers, alors qu'il n'est pas identifié comme tel. Je vais donner quelques éléments de compréhension à nos auditrices et auditeurs de ce qu'est ce film. Corinne Rondeau.
Oui. En même temps, ça commence sur le visage d'un homme, et la voix off.
Enfin, après ce plan de où on découvre Beyrouth, on est en très très gros plan sur un visage.
Il faut savoir que le drone, c'est ce qui jette des bombes.
aussi.
Voilà, aussi. Et ça commence par le visage d'un homme avec les yeux fermés puis ouverts. Ouais. Et puis ensuite, sa tête va se lever et va découvrir un mur troué. Ouais. Et donc, effectivement, c'est... Et comme la voix finit sur la mère, le souvenir d'une mère, puisqu'il part, son premier souvenir, ton souvenir d'enfance de son père, qui travaille à Beyrouth, et qui raconte qu'effectivement, le temps de guerre pour les ouvriers, c'est de partir reconstruire pendant que la guerre est en train de se passer chez eux.
Oui, la guerre ne laisse pas de place pour celui qui construit, puisqu'elle détruit, et eux vont construire, vont rebâtir une ville qui a elle-même été à plusieurs fois détruite, notamment par une guerre civile de 15 ans.
C'est la raison pour laquelle je trouve ce film extrêmement binaire. Je suis extrêmement perplexe, vraiment, pour ce film. Je lui trouve une ruse technique absolue jusqu'au montage. Il est très efficace et pour moi, il est trop efficace. On a le ciel et la terre, on a la construction, la destruction, on a, évidemment, ça s'ouvre sur un rocher comme quelque chose d'archaïque et puis la ville, on a l'activité puisqu'on les voit en activité, puis ensuite la nuit, on les voit dans la passivité. C'est quand même des travailleurs qui dorment et qui ne parlent pas et qui travaillent sans parler. Il n'y a rien, sauf cette voix qui est une voix fantomatique, on pourrait dire. On a le calme et la déflagration, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, qui, moi, m'a paru extrêmement brutale, puisqu'en fait, le film a une très grande lenteur. Et en même temps, à l'intérieur de cette lenteur, il y a à la fois ces images extrêmement fabriquées, et en même temps, vous avez l'utilisation de films qui ont été pris par téléphone sur YouTube, qui sont l'effondrement après une attaque, un bombardement. Vous avez cette mise en sonore avec des voix au fond, puis d'un coup, ça se révèle être des cris, puis on est ailleurs dans une autre image qui renvoie sans arrêt petit à petit et la guerre, mais aussi le drame humain. Et donc, je trouve que ce film, en voulant chercher une poétique des images ou une esthétique très forcée des images, ne fait que ramener par un autre biais d'image, un autre régime d'image, tout ce qui est le drame et qui va venir à accorder le film sur des binarités comme ça. Et d'ailleurs, le film est l'ouverture sur un souvenir et il se clôt sur le second souvenir. D'un côté, le père...
Annoncé,
au début,
dès le départ. Oui, j'ai un premier souvenir.
Et le deuxième souvenir. Et ensuite, c'est la mère. Et au milieu, il y a son propre événement de la guerre aussi, et qui est justement le titre du film, The Taste of Cement, le goût du béton et du ciment. Et en fait, c'est le seul élément positif justement de ce goût du ciment que je pourrais dire, c'est que toutes ces images, aussi chiadées qu'elles soient et aussi récupérées qu'elles soient, et en même temps cette volonté de dédier son film à tous les travailleurs en exil, je veux dire l'exil, c'est un exil spécifique. Je veux dire, c'est la question de la frontière qui se joue dans ce film, et je trouve qu'il l'a joué à la fois sur des reflets. Il y a une grande pluie à un moment donné, il y a des explosions, on voit une caméra sur un tank, et chaque fois qu'un ouvrier tape, fait un geste, cut, et on a une déflagration. C'est d'une violence extrême. Et donc, ça vous fait bondir dans votre fauteuil. Et après ce grand moment de bouleversement, je dirais, perceptif, on a une pluie qui tombe sur le chantier. Les hommes sont dedans, ils sont à l'intérieur, dans la nuit, au silence. Moi, j'aimerais bien entendre parler aussi les ouvriers, finalement, parce que ce réalisateur fait parler une voix. Je veux dire, c'est une spécificité. Et on voit cette scène où il y a des ouvriers qui marchent sur leur reflet. Et il est sur une légère limite. Et à la fin du film, il y a aussi quelque chose de la limite qui est en jeu, puisqu'il place sa caméra sur une bétonnière, c'est-à-dire un camion toupie. Et là, vous avez la route qui est filmée à l'arrière, qui va se spiraler. Pendant un long moment.
C'est l'image que j'ai longtemps gardée du film. C'est pour ça que j'ai eu besoin de la revoir.
Et celle-là, elle me pose vraiment problème. Et je trouve que c'est une manière de nous dire, bon, il nous met la tête à l'envers. La guerre nous met la tête à l'envers. Et peut-être qu'effectivement, c'est assez pauvre ce que je dis. Mais en même temps, je me suis dit, peut-être que ce film n'est juste que nous renvoyer l'air qu'on respire, qui est quand même l'air de la guerre partout. Mais sur la question du film, il faut le mettre dans sa spécificité et d'un exil particulier entre le Liban et la Syrie. Et je trouve que justement, la question de la frontière qui l'utilisent n'est fait que pour faire des binarités, des points pour chercher du relief et en même temps une sorte d'harmonisation. Alors moi je trouve que c'est trop fabriqué, vraiment c'est trop fabriqué, et je regrette vraiment cette dimension de ces hommes qui dorment sans arrêt, et puis ces images qu'on voit sans arrêt dans leur œil.
Alors juste une chose très factuelle par rapport à cette question des ouvriers, de leurs paroles, parce que moi le film m'a posé pas mal de questions aussi, sur le fond et sur la forme, et Ziad Kaltoum m'explique que ces ouvriers ne lui parlaient pas, parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils pourraient dire, être connus, quelles conséquences pour la famille dans le pays, par rapport aux autorités libanaises. Enfin, qu'il y avait quand même une vraie rareté de la parole, et qu'il n'y avait pas du tout de pacte de confiance entre lui et ses ouvriers de ce chantier-là. Ce qui explique pour partie, après je pense qu'il en fait un parti pris de son film, et ce film est rempli de partis pris formels importants, ce qui ne nous aura pas échappé. Thierry Chaise, sur Taste of Cement.
J'ai un peu la même impression que Philippe Azoury. Premièrement, j'ai été assez happé par la chose, et en regardant le film, j'étais vraiment impressionné par ce que je voyais, par cette manière de s'emparer de ce sujet-là, qui est inattendu, qui va au bout, qui a une logique, et je trouve qu'il va au bout. Et ça m'a beaucoup plu, avec cette idée aussi de comment on crée un langage cinématographique, alors que justement, quand la guerre éclate, la communication ne se fait plus, et que sans doute peut-être entre eux, eux-mêmes n'ont pas confiance les uns dans les autres. C'est-à-dire que et tout ça, je trouve intéressant. Donc pendant le film, je suis vraiment pris la manière justement de jouer avec cette binarité qui est réelle. Et puis quand j'en sors, en fait, j'ai plus de questions que de réponses. On disait ça pour Cœur pur, mais là c'est encore plus le cas. Et là, je rejoins vraiment ce que disait Corinne, c'est-à-dire que je me dis qu'à un moment, en effet, c'est une manière de traiter un sujet de manière très originale, et c'est aussi une manière à un moment de faire ce sujet pour faire un peu son, entre guillemets, son malin en tous les cas, pour faire une démonstration de force de cinéaste. Et cette démonstration de force qui, pendant que je la vis, m'impressionne, quand j'y pense après, je dis ah oui, ça a un côté justement gênant, et que d'un seul coup, le sujet est presque dilué à travers cette démonstration de force, et qui se retrouve au sommet en effet dans la bétonneuse, où là, je n'y vois plus qu'effet et je perds mon sujet. Donc voilà, je suis resté, une fois encore, pendant que je le vois, assez impressionné, et au fur et à mesure des jours, plus stupéfait.
Non, mais après, voilà. Il y a une démonstration de virtuosité, mais qui à cause de cette binarité, moi vraiment, les séquences que vous évoquiez, Corinne, avec ce montage alterné entre les chars la flèche de la grue, ça s'appelle comme ça, pour moi, est bête. Enfin, construction, destruction, oui, d'accord, mais c'est vraiment...
Là, oui, on se le permettrait pas sur des images d'archives, par exemple.
Absolument.
Nous, en tant que spectateurs, on l'autorise parce que c'est ça a lieu là, au maintenant.
Présent, et c'est simultané.
Et d'une certaine façon, on donne beaucoup de précautions au film, mais c'est vrai que le film, dans sa façon, pourrait être très, très, très critiquable. Moi, quand tout à l'heure, Arnaud, vous me demandiez qu'est-ce que ça fait de voir une ville qu'on connaît si bien, dans laquelle on a un peu vécu, tout ça comme ça. Moi, c'est presque là où le film m'intéresse beaucoup, c'est qu'il depuis ce point de vue, presque inédit. Il la filme, c'est pas un grand film sur Beyrouth, c'est pas un film qui donne envie d'aller à Beyrouth, ça c'est évident.
Oh, mais il y a des très belles images.
Moi,
j'ai le vertige, alors c'était horrible pour moi.
Oui, mais moi aussi.
Horrible.
Mais je veux dire, le film montre aussi l'espace que le Liban offre à des réfugiés syriens, surtout s'ils sont dans la construction, c'est-à-dire un espace d'isolement total, d'encerclement quasiment. C'est une façon quasiment de traiter le racisme envers les réfugiés syriens qui est un réel problème libanais, et de le traiter sans passer finalement par du discours, c'est assez fort. Et plus profondément, moi c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un portrait sensoriel sur l'exil que je trouve magnifique. Et je suis pas, je comprends quand Corinne Rondeau dit c'est un exil quand même très spécifique, les réfugiés syriens au Liban. Il y a quand même le sentiment de l'exil, c'est-à-dire comme ce tout petit territoire rikiki, ou trop haut, ou trop bas, ou trop en dessous, ou trop au-dessus, mais finalement jamais à la bonne mesure.
Bon, ils ne sont pas sur le sol béroutin, d'une certaine façon.
Qui me semble quand même, pour le coup, universel en termes de sensorialité. Quoi.
Voilà. C'est le vrai hors-sol.
Oui, le vrai hors-sol.
D'une certaine façon. Corinne Rondeau.
Ouais, non, j'arrive pas à adhérer à ce film. Il me laisse un goût amer, je dirais, du béton.
De ciment.
Mais parce que... Ouais, mais... Mais, mais parce que je trouve que cette question de...
Le geste artiste.
Non, oui, il y a ça. Et puis, il y a quelque chose, je trouve que venir à Beyrouth pour reconstruire sur une guerre civile, c'est pas la même chose que de venir de son pays détruit pour construire Beyrouth. Il y a quelque chose là... Mais oui,
j'ai pas compris la phrase,
les Syriens partent pour construire Beyrouth, mais la reconstruction de Beyrouth ne tient pas à la guerre qu'il y a en Syrie. C'est pas les mêmes spécificités.
Ça a été déjà reconstruit. Et le dernier vrai conflit, c'est 2006. Qui a abîmé Beyrouth, c'est le conflit avec Israël en 2006.
Et quand il y a cette manière de dire tous les travailleurs sont dans cet exil-là, ça me gêne. Parce que c'est pas vrai. Ou alors de dire le travailleur est par essence exilé. Autrement dit, alors faisons-les parler indépendamment de la situation qu'il a connue, que vous rappelez, Arnaud. Moi, ça me gêne vraiment. C'est même la voix off sur cet élément me gêne beaucoup.
Bon, allez voir par vous-même, trouvez les séances, les écrans par ce pays, à Paris.
18h30.
On espère qu'il va se promener en France, dans d'autres salles, évidemment, sur tout le territoire. Taste of Semen de Ziad Kaltoum. Et nous concluons cette émission avec le jeu de la dispute, bien sûr, et d'abord un rappel du jeu d'hier au soir, et c'est Grégoire Desfiore qui nous rappelle la question avant de nous donner la réponse.
De quelle poétesse autiste se sont inspirés Marguerite Borda et Pierre Meunier dans leur précédent spectacle? La réponse était Babouyek.
Et ce soir, nous faisons gagner des DVD du film Wrong Elements de Jonathan Little, qui est distribué par Blackout. Quelle est la question, Grégoire?
Qui est l'auteur de cette citation? La question du bien et du mal demeure un chaos indébrouillable pour ceux qui cherchent de bonne foi. C'est un jeu d'esprit pour ceux qui disputent. Ils sont des forçats qui jouent avec leurs chaînes.
C'est pas plus long comme citation. Bon, envoyez la réponse que vous pensez juste avec vos coordonnées postales, tout ça par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi nous réécouter et bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. Lundi, 19h, une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie de Fabienne Pascaud, Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillier. À notre affiche, La Tempête de William Shakespeare, mise en scène de Robert Carsen, en ce moment à la Comédie Française. Le Monde d'hier, J'ai un chat dans la gorge, l'adaptation de Laurent Sexic de l'autobiographie de Stefan Zweig avec Jérôme Kircher. Et puis, une aventure théâtrale 30 ans de décentralisation. C'est un film documentaire de Daniel Kling. Enfin, sachez que c'est Lucille Como qui prendra les rênes de la dispute toute la semaine prochaine. Je vous retrouverai, je l'espère, le 15 janvier.